RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. 120 étrangers ont été évacués du centre de Sulawesi. L'Indonésie va coordonner l'assistance internationale à Sulawesi centrale. Le gouvernement britannique offre des options d'aide à Palu. L'évacuation est la priorité des secours en cas de catastrophe à Palu. Les touristes chinois dominent la visite touristique en Indonésie. Le festival Tajuk 2018 accueille la journée sans tri à Cirebon. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Sutopo Purwonugroho, le responsable du Centre national d'information et de relations publiques, ou BNPB, a révélé que jusqu'à mardi 2 octobre 2018, à 13h heure locale, les ressortissants étrangers qui avaient été évacués en raison du tremblement de terre et tsunami à Palu et Donggala, dans l'est de Sulawesi, ont atteint 120 personnes. Lors d'une conférence de presse à Jakarta le mardi 2 octobre 2018, Sutopo a déclaré qu'il y avait encore deux étrangers qui ne sont pas encore trouvés. Ils viennent de Corée du Sud et de Belgique.
Kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tercatat 122 warga negara asing.
Nous avons déjà coordonné avec le ministère des Affaires étrangères. 122 ressortissants étrangers ont dû être évacués de Palu et Donggala. 120 personnes ont été identifiées. Cela veut dire qu'ils ont été contactés. Nous connaissons déjà leur état, où ils se trouvent et leur nom. Et deux personnes, un ressortissant coréen et un ressortissant belge, sont toujours inconnus. Sutopo a déclaré qu'un étranger sud-coréen qui n'était pas encore trouvé, peut-être encore sous les ruines de l'hôtel Rua Rua à Palu, un citoyen belge est inconnu car il ne peut pas être contacté via le réseau de communication. Selon Sutopo, le processus d'évacuation des étrangers a été coordonné par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie en collaboration avec BNPB, l'Armée nationale indonésienne et la Police nationale indonésienne, et aussi l'Agence nationale de recherche et de sauvetage et d'autres ministères. Sur un total de 122 étrangers, il y avait 2 étrangers de Singapour, 2 Belges, 8 Français, 1 Espagnol, 11 Vietnamiens, 30 Thaïlandais, 21 Chinois, 7 Sri Lankais, 7 Hollandais, Allemagne 20 personnes, Suisse 1 personne, Timor-Leste 4 personnes et Hong Kong 2 personnes. Selon Sutopo, des centaines d'étrangers ont la priorité d'être évacués à l'aide d'un avion Hercules de Palu à Jakarta ou de Palu à Makassar dans le sud de Sulawesi. Le gouvernement indonésien a mis en place un groupe de travail chargé de coordonner l'entrée de l'aide internationale en faveur des victimes du séisme et du tsunami à Palu et à Donggala dans le centre de Sulawesi. Le groupe de travail dirigé par le ministère indonésien de la politique, du droit et de la sécurité contrôle certains ministères et d'autres institutions publiques, y compris le ministère indonésien des Affaires étrangères et l'Agence nationale de la gestion des catastrophes au BNPB. La création de l'équipe de travail est le suivi du mandat du président Jokowi qui offre la possibilité d'une assistance internationale. Lors d'une rencontre avec des journalistes à Jakarta lundi, le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a expliqué que le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de groupes de travail dirigés par le ministre indonésien de la politique, du droit et de la sécurité, M. Wiranto, décidera des types d'aide et gérera le processus de distribution de l'aide qui est nécessité par les victimes du séisme et du tsunami actuellement.
Tim nasional ini yang mengadakan rapat dan dipimpin oleh Menko Polhukam.
La réunion de direction de l'équipe nationale dirigée par le ministre de la coordination des affaires politiques, du droit et de la sécurité de l'Indonésie, du ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, est présent. Donc, dans ce contexte, nous recevrons une assistance internationale. J'ai souligné de nouveau qu'il était coordonné par une équipe nationale dirigée par le ministre de la politique, du droit et de la sécurité de l'Indonésie. Toute l'assistance sera décidée ce qui est nécessaire ou déployée et comment entrer. Il est sous le contrôle du ministère indonésien des Affaires étrangères. Armanata a expliqué que certains pays se sont déclarés prêts à apporter une aide telle que l'argent, la recherche et le sauvetage, la réhabilitation et la restauration des infrastructures, ainsi que pour faire face aux pénuries importantes telles que les alimentations, l'eau, les médicaments, les instruments médicaux, la couverture jusqu'à la tente. Il est possible, comme par exemple la fourniture d'une assistance sous forme de fourniture de flotte aéronef pour aider le processus logistique de distribution de l'assistance dans des zones inaccessibles et des équipements lourds pour accélérer le processus de recherche des victimes et des cadavres inhumés dans les ruines de bâtiments. Les États-Unis, la France, la République tchèque, la Suisse, la Norvège, la Hongrie, la Turquie, l'Union européenne, l'Australie, la Corée du Sud, l'Inde, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Thaïlande, la Chine sont les pays qui sont prêts à apporter leur des organisations internationales, y compris les organisations internationales comme Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre de coordination de l'aide humanitaire de l'ASEAN. L'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a déclaré mardi à Jakarta que le gouvernement britannique avait préparé plusieurs options d'assistance à envoyer au gouvernement indonésien dans le but de faire face au séisme et au tsunami à Palu dans le Sulawesi central. Auparavant, le ministre britannique de développement international avait approuvé l'allocation d'aide humanitaire de 38 milliards de rupiah du gouvernement britannique au gouvernement indonésien. Muazzam a déclaré que son parti avait inventorié plusieurs options d'assistance pour aider le gouvernement indonésien.
Kami punya beberapa opsi. Jadi kami punya bahan-bahan dalam gudang di Dubai, di Delhi.
Nous avons des options, nous avons des ingrédients dans un entrepôt à Dubaï, à Delhi, notamment des kits d'arbre. Cela peut être utilisé. Il y a des tentes, des cuisines temporaires, des jerrycans, des couvertures, etc. Donc, c'est un kit complet pour les familles qui sont victimes. Nous coopérons également avec des compagnies aériennes de transport pour déplacer ces matériaux directement à Palu ou vers les grands aéroports tels que Makassar ou Balikpapan, situés autour des zones d'urgence. Il existe également plusieurs options militaires pour l'avion. il y a des avions militaires et il existe également des navires militaires dans la marine britannique située à Singapour. Cela peut être aussi utilisé. Donc il y a plusieurs options et nous pouvons aussi financer les agences d'urgence qui peuvent aider dans cette situation qui ont été actives en Indonésie, entre autres la Croix-Rouge, le PMI et l'organisation non gouvernementale. Muazzam Malik a expliqué que l'aide de 38 milliards de roupies était le budget du gouvernement britannique destiné à l'assistance humanitaire en cas de catastrophe internationale. En outre, le gouvernement britannique a également envoyé une équipe spéciale chargée de la coordination avec le gouvernement indonésien afin que l'assistance puisse être reçue et utilisée pour alléger le fardeau des victimes du séisme et du tsunami à Palu dans le centre de Sulawesi. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Agence nationale de la gestion de catastrophes au BNPB donne la priorité à la gestion de l'impact du séisme et du tsunami touché à Palu dans Sulawesi centrale dans le cadre de l'évacuation, de la recherche et du sauvetage des victimes. Sutopo Purwonugroho, porte-parole de BNPB, a déclaré lundi à Jakarta que BNPB nécessitait beaucoup d'équipements lourds dans ses efforts. BNPB avait besoin de plus de personnel, d'équipes composites de recherche et de sauvetage, de sorte qu'il reste encore des volontaires qui se rendent sur le lieu de catastrophe. Il a déclaré que le gouvernement avait préparé le lieu de funérailles général de Papua dans la ville de Palu pour les victimes.
Yang pertama, melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban.
Yang kedua, premièrement, poursuivre l'évacuation, la recherche et le sauvetage des victimes. Deuxièmement, enterrer des cadavres hospitalisés. Pendant 3 jours, leur état a provoqué une odeur nauséabonde, ce qui permet un enfouissement conjoint rapide. Troisièmement, la récupération de filets électriques parce que toutes les zones électriques de la ville de Palu n'ont pas encore allumé. Donggala, Sigi, Parigi, Mutong sont 4 régions qui sont la plus touchées. Si le soir vient, les zones sont sombres. Cela alourdit le processus d'évacuation, rend difficile l'aide aux victimes et aux réfugiés. Sutopo Purwonugroho a également déclaré que le gouvernement donnerait la priorité au secours des victimes du séisme et du tsunami touchés à Palu en accélérant l'approvisionnement de mazout, notamment pour les générateurs hospitaliers et les opérateurs cellulaires. Suharyanto, chef de l'agence du Centre de statistiques au BPS, a déclaré récemment à Jakarta que les touristes chinois étaient le plus grand nombre de touristes étrangers en Indonésie. 14,24% de la visite totale des étrangers visitant l'Indonésie provient de Chine. La Malaisie occupe la 2e position, Timor-Leste occupe la 3e position, Singapour est la 4e position et le dernier est l'Australie.
Dilihat dari kebangsaan tidak banyak berubah, bahwa 5 besar kebangsaan
il n'y a pas de changement si l'on considère leur nationalité. La grande nationalité a visité l'Indonésie. Actuellement, 14,24% sont des étrangers venant de Chine et ensuite la Malaisie représente 13,91% et ensuite Timor-Leste, Singapour et l'Australie. La position des 5 pays ne change pas d'un mois à l'autre. Parfois, il y a un petit changement, mais pour août 2018, il est toujours dominé par les touristes étrangers en provenance de Chine. Suharyanto a également ajouté que cumulativement de janvier à août 2018, le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie atteignait 10,58 millions de touristes, ou avait augmenté 12,30% par rapport à la même période en 2017. À l'occasion de la fête nationale du Santri, divers événements ont été préparés par le Conseil de Nahdlatul Ulama. L'un d'entre eux est le festival Tajuk 2018 ke Sitiandra en collaboration avec le Sultanat Kasepuhan de Cirebon. Le président du comité du festival Tajuk 2018, Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj, lors d'une conférence de presse tenue à la salle Al-Gadir du pensionnat islamique Kempe, le district de Gempol, la région de Cirebon, a déclaré que l'événement aura lieu du 20 au 22 octobre 2018 à Alun-Alun Kesepuhan Cirebon. Mustafa a déclaré que le président Joko Widodo devait assister à la projet de la Journée nationale du Santri le 22 octobre 2018 et environ 10 000 santris et takmir présenteront au festival. Charmi, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Brexit entre l'idéalité et la réalité ». Après plus d'un an de référendum qui a laissé la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne, ou Brexit, les deux parties continuent à négocier. Les négociations devraient ouvrir la voie au Brexit pour ne pas gâcher les relations économiques entre le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. Michel Barnier, qui a été nommé négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, a rencontré pour la dernière fois le ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, Maroto Reyes. Comme indiqué sur son compte Twitter, Michel Barnier laisse entendre que le Brexit ne doit pas détruire l'ordre économique des pays de l'Union européenne. Il a déclaré que l'Union européenne continuait à s'efforcer pour que la sortie officielle de la Grande-Bretagne continue d'assurer une bonne coopération économique. En fait, le référendum n'a pas automatiquement forcé la Grande-Bretagne à quitter l'Union européenne. Il faut beaucoup de temps pour se préparer des deux côtés. Politiquement, certains pays de l'Union européenne veulent que le Brexit ne bouleverse pas la politique antérieure. Des approches de négociation ont également été considérées afin que la première ministre britannique, Theresa May, n'approfondisse pas les conflits politiques internes. Comme on le sait, il y a eu une différence entre Theresa May et deux partisans du Brexit qui ont conduit à une crise gouvernementale. David Davis et Boris Johnson, deux principaux partisans du Brexit dans le gouvernement de Theresa May, ont démissionné en signe de protestation. Lors de la négociation avec l'Union européenne, la première ministre Theresa May doit être en mesure de garantir la stabilité et la sécurité de son gouvernement. Les efforts politiques de Theresa May ont été déployés alors que le congrès du Parti conservateur avait eu lieu il y a 3 jours. Theresa doit faire face à un test difficile à la fois national et extérieur. Le délai de la Grèce jusqu'à la signature de l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en novembre déterminera réellement si la décision du référendum sur le Brexit se déroulera sans heurts ou créera de nouveaux problèmes, tant pour la Grande-Bretagne que pour les pays de l'Union européenne. C'est là que l'idéalité resserre avec la réalité. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Serviteurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'Irak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Dans son histoire, l'Irak faisait partie du Sultanat d'Oman. L'Irak était alors sous domination britannique pendant la Première Guerre mondiale. en 1920 le Irak était sous l'administration de l'Empire britannique. Le 3 octobre 1932, l'Irak a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne et est devenu un royaume. En 1958, la forme de la monarchie a été abandonnée et a déclaré la République d'Irak. De 1968 à 2003, l'Irak était contrôlé par le Parti socialiste baathiste sous le régime de Saddam Hussein. L'invasion américaine de 2003 a renversé Saddam Hussein et a été remplacé par le gouvernement du système parlementaire multipartite, qui a ensuite formé son gouvernement sur la base des résultats de l'élection générale parlementaire. L'autre information est sur la première fusée qui pénètre dans l'espace, AV2A4. Le 3 octobre 1942 est devenu une première étape dans l'histoire des vols spatiaux. Ce jour-là, pour la première fois, la fusée a réussi à traverser l'atmosphère et à atteindre l'espace. C'est le premier objet fabriqué par l'homme qui a réussi à pénétrer dans l'espace. L'Allemagne est le premier pays à réussir cette mission. L'Allemagne, dirigée à ce moment-là par Adolf Hitler, développait activement des missiles balistiques à longue portée. La fusée appelée V2A4, pesant 2 tonnes, a été conçue par le scientifique allemand Werner von Braun. Sa création était internationalement reconnue et plus tard utilisée dans la Seconde Guerre mondiale. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990. La réunification allemande est le processus qui a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande dans la République fédérale d'Allemagne. Après l'effondrement de l'Union soviétique à la fin de 1990, l'Allemagne de l'Est touchait aussi son impact. Précédée par l'effondrement du mur de Berlin par des milliers d'Allemands en novembre 1989. Enfin, les hauts fonctionnaires de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest se sont réunis et ont publié une déclaration pour réunir la ville de Berlin, qui est séparée par un mur comme un symbole de l'effondrement de la guerre froide entre l'Occident et l'Orient. Le 3 octobre 1990, à Berlin, des centaines de milliers de gens ont chanté l'Ode à la joie de Beethoven et agitant des drapeaux rouges, or et noir, après que des responsables allemands ont déclaré officiellement l'Allemagne réunifiée. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre « Développer l'instrument de finance des catastrophes ». Le gouvernement élaborera des instruments de finance de catastrophes afin de soutenir une gestion rapide et appropriée des catastrophes dans les régions. C'est ce qu'a déclaré la ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, citée par l'agence de presse Antara lundi. Sri Mulyani a déclaré qu'elle réfléchissait à la manière de développer un instrument de financement pour la région, comme l'assurance, avec la fréquence des catastrophes se produisant dans diverses régions. La ministre des Finances observera et consultera avec d'autres pays afin de créer de nouveaux instruments liés au financement de la gestion des catastrophes. Cette question sera également abordée lors des réunions annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale en 2018 à Nusa Dua, Bali, du 8 au 14 octobre. Selon Sri Mulyani, lors de la réunion annuelle, le gouvernement indonésien réunira des experts afin que l'Indonésie puisse créer de nouveaux instruments entre les régions pouvant être inclus dans le budget de l'État. En outre, nous allons également développer une méthode pour que l'assistance à une zone touchée puisse être directement effectuée. En ce qui concerne le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé les villes de Palu et de Donggala dans le Sulawesi central, la ministre des Finances a fourni des fonds prêts à l'emploi à l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, d'une valeur de 660 milliards roupies. Ainsi, BNPB peut accomplir ses tâches dans des situations d'urgence. Les fonds prêts à être utilisés sont des fonds qui sont toujours disponibles et réservés par le gouvernement pour être utilisés lors du cas d'urgence de catastrophe jusqu'à la date limite finale de la situation d'urgence. Sri Mulyani a également évalué l'importance du renforcement budgétaire et logistique des institutions qui sont souvent directement impliquées dans la gestion des catastrophes telles que BNPB, la TNI et la police indonésienne. Selon elle, cela permettra à l'Indonésie de disposer de la capacité de gérer les catastrophes. Si on voit de son emplacement géographique, il semble que l'Indonésie ait besoin d'anticiper les catastrophes de façon continue. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous emmener dans un voyage culinaire pour goûter un plat typique de Lombok, le satay de Tanjung. Alors, restez avec nous sur la Voix d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre les zones courtes, vous pouvez écouter nos émissions sur www.voinews.id. Serviteur, en plus de ces beaux paysages, Lombok dans la province de Nusa Tenggara Ouest possède également des plats délicieux qui peuvent secouer votre langue. L'un d'entre eux est le satay Tanjung. À Lombok, en particulier dans l'est de Lombok, ce satay est un plat sacré qui est servi dans certaines occasions comme lors d'événements religieux, lors de cérémonies traditionnelles ou lors de fêtes de mariage. De même, lors de fêtes religieuses d'Idul Fitr et Idul Adha, chaque famille du sous-district de Tanjung en servira le satay Tanjung à ses invités. Par conséquent, manger ce satay à Lombok a une sensation différente. C'est la raison pour laquelle on a décidé que le satay Tanjung serait la nourriture typique de Lombok oriental. Ce satay avec angora, parce que dans le passé, le secret du goût du satay n'était connu que par les autochtones de Tanjung, et donc le reste du monde ne pouvait pas le cuisiner. Serviteur, le satay Tanjung est généralement cuisiné à partir de poissons de cakalang ou de la poisson de langwan. Si cakalang est rarement trouvé au marché, le poisson langwan ou le marlang peut aussi être utilisé. Pour faire le satay Tanjung, tout d'abord, le poisson doit être nettoyé de ses écailles, de ses arêtes et de ses épines. Après cela, il est coupé en petits morceaux, immergé et aromatisé avec les épices broyées telles que poivre, curcuma, gingembre, galanga, noix de muscade, sel et vinaigre. Lorsque le poisson est prêt, ajoutez le lait de noix de coco épais. agiter le tout pour que cela devienne une pâte que l'on enfile sur les brochettes. Chaque brochette contient 5 morceaux de pâte. Ensuite, le satay est grillé sur un prapan, un outil qui sert à griller le satay et qui est fabriqué à partir d'argile dont les braises sont faites de coquilles de noix de coco. Pour que le plat soit encore plus parfumé, n'oubliez pas de verser du jus de lime au moment de servir le satay. Chers auditeurs, au fil du temps, le satay Tanjung est devenu la source alternative de revenus pour la plupart des habitants de Tanjung. Aujourd'hui, pour profiter de satay Tanjung, nous n'avons pas besoin d'attendre que les habitants de Tanjung préparent des cérémonies religieuses. Le satay Tanjung est apprécié quand il est encore chaud et servi avec lontong ou du riz à la vapeur enveloppé dans des feuilles de bananier ou avec du riz chaud. Le goût savoureux des viandes de poisson et du lait de noix de coco ainsi que les épices provenant des ingrédients est très présent. Le mélange d'épices et de poissons grillés donne au corps une sensation de chaleur. Les saveurs salées et épicées dominent le satay Tanjung, par conséquent de nombreux touristes apprécient cette préparation. C'est facile d'acheter des satay Tanjung parce que les vendeurs les vendent autour du marché ou au terminal des bus de Tanjung. Le prix d'une brochette est de 500 000 rupiah ou si vous voulez commander une portion contenant 20 brochettes de satay, vous n'avez qu'à payer 10 000 rupiah. Habituellement, les vendeurs de satay Tanjung commencent à servir à 14h jusqu'à 21h heure locale. Serviteurs, les vacances à Lombok seraient incomplètes si vous ne goûtez pas le satay de Tanjung. Surtout après un voyage à Gili Trawangan, l'une des plus belles îles dans la province de Nusa Tenggara West. Lorsque le corps se sent fatigué, goûtez alors le satay Tanjung. Nous sommes sûrs que vous serez à nouveau frais et en forme. Serviteurs, vous venez d'entendre le magazine culturel avec le titre « Le satay Tanjung ». Rendez-vous demain pour d'autres sujets plus intéressants encore. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence de développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Saya senang » ou en français « Je suis content ». Bonne écoute. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée « Saya senang ». Je répète « Saya senang » ou en français « Je suis content ». Les personnages sont Tony et Dinda, l'emplacement à la plage de Parangtritis, la situation Tony et la famille de Joko visitent la plage de Parangtritis, Tony est en train de voir le coucher de soleil. Tony, aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini. Dinda, syukurlah kamu senang. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Saya senang, ou en français, je suis content. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez les répéter après moi. Aku senang, qui signifie je suis content. Bisa melihat matahari terbenam. Bisa melihat matahari terbenam. Qui signifie de voir le coucher de soleil. Di sini. Di sini, qui signifie ici. Syukurlah kamu senang. Syukurlah kamu senang. Qui signifie Dieu merci, tu es content. Dans le dialogue, Tony a exprimé son plaisir en disant « Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini » ou en français « Je suis content de voir le coucher de soleil ici ». La phrase « saya senang » qui signifie « je suis content » dans ce contexte, elle est utilisée pour transmettre le bonheur. Voici d'autres exemples. Saya senang bertemu kalian di sini. Saya senang bertemu kalian di sini. Qui signifie je suis content de vous rencontrer ici. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. Qui signifie je suis content d'aller à la plage avec vous. Dans les conversations quotidiennes, les Indonésiens prononcent souvent le mot senang, senang, en prononciation senang. La phrase aku senang, je répète, aku senang, est la même chose que aku senang, c'est-à-dire je suis content. La suite, si vous sentez soulagé, vous pouvez dire syukurlah. Je répète, syukurlah, qui signifie Dieu merci. Par exemple, syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Qui signifie Dieu merci, tu vas bien. Syukurlah dia selamat. Syukurlah dia selamat. Qui signifie Dieu merci, il a survécu. Avant de terminer le programme de l'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons la conversation encore une fois.
Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Wah, syukurlah kamu senang.
Après avoir écouté la conversation dont le titre est Saya senang, ou en français Je suis content, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice d'aujourd'hui est « Décrivez le lieu touristique de votre ville et vos sentiments lorsque vous y êtes. » Par exemple, « Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini. Karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant. Et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, Voilà l'édition de la rubrique d'apprendre la langue onésienne d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez. On se retrouve dans la rubrique du magazine musical avec moi, Tiwi. Aujourd'hui, je vais vous donner les chansons de Dira Sugandi, la chanteuse indonésienne qui a de nombreuses réalisations. Elle a collaboré avec plusieurs artistes internationaux tels que David Foster, Kate Martin, Andrea Bocelli et Diane Warren. Elle est diplômée de l'Université de Pelita Harapan du département de vocal performance. Elle performait déjà sur une scène de jazz à l'étranger avec des musiciens de jazz du monde entier. L'un d'eux est Incognito, un groupe britannique. Pour commencer l'édition d'aujourd'hui, écoutons la dernière chanson de Dira Sugandi s'intitulant Unbeatable ou en français Imbattable.
I'll sing out loud. Let's take it higher now.
You give me the fire that lights up the world. With your energy, stronger together. You can find fire to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable.
Les auditeurs, nous venons d'écouter une chanson intitulée Unbeatable ou en français Imbattable de Dila Sugandhi avec Jeff Lowe, qui est l'une des chansons officielles des Jeux Asiatiques de 2018. Leur performance en duo lors de la cérémonie de clôture des Jeux Asiatiques en septembre a beaucoup d'éloges. Même le boy band ou le groupe vocal de la Corée du Sud, Super Junior ou Suju, qui a aussi performé dans la cérémonie de clôture des Jeux Asiatiques, l'a invité à collaborer. Ce n'est pas la première fois que Dila attirait des mélomanes internationaux. La chanteuse, dont le nom complet est Dila Julianti Sugandhi, a un talent musical depuis son enfance. Depuis qu'elle est entrée dans l'industrie de la musique en 2000, elle a collaboré avec des musiciens internationaux tels que Jason Mraz et David Foster. En 2010, elle a publié un album intitulé Something About the Girl, l'une des chansons de l'album s'intitulant No More Tears. Cette chanson est très populaire auprès des fans de jazz au Royaume-Uni et au Japon. Les auditeurs, ensuite, je vous présente une chanson de Dila Sugandhi dont le titre est No More Tears, ou en français, Cesse de pleurer. Bonne écoute.
Just through with finding tears, I see them now.
la chanson intitulée No More Tears de Dira Sugandhi. Cette chanson a immédiatement été appréciée par les amateurs de musique de jazz. L'album Something About the Girl a été classé 7e pour les albums soul au Royaume-Uni en 2010 et a été entré dans la catégorie nominée pour le Soundtrack Award de 2010. C'était le premier album de Dira sorti au Royaume-Uni le 8 mars 2010 par Expansion Records. 80% de la musique et des paroles de son album ont été réalisées par Jean-Paul Monique, producteur, compositeur, guitariste, chanteur et chef du groupe D'Incognito. En Indonésie, la femme née à Bandung le 29 juillet 1979 est connue pour son performance au Java Jazz Festival. Les auditeurs, c'est toute l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, je vous donne deux autres chansons de Dira, dont les titres sont Pelangi, ou en français l'arc-en-ciel, et La Malera's Dream, ou en français le rêve de la Malera. Bonne écoute et au revoir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.